VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, midi à Port-Gentil au Gabon. Le gouvernement gabonais a dénoncé les propos de l'opposant Jean Ping, candidat à la présidentielle de 2016, selon lesquels il voulait, je cite, se débarrasser des cafards. Les autorités gabonaises ont menacé Jean Ping de poursuites en justice. Les partisans de M. Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, ont qualifié la vidéo tournée lors d'une rencontre en province avec des villageois de montage grossier. L'élection présidentielle qui doit avoir lieu en août et en octobre opposera le président sortant Ali Bongo Ondimba, candidat à un deuxième mandat, à plusieurs personnalités de l'opposition comme Jean Ping, l'ex-président de l'Assemblée nationale Ginzouba Ndamba ou l'ex-premier ministre Raymond Ndong Sima. L'armée burkinabé souhaite retirer ses hommes des missions de paix de l'ONU. L'état-major burkinabé l'a fait savoir au cours de manœuvres militaires multinationales dénommées Western Accords 2016. Ces manœuvres regroupent environ 300 militaires venant de 15 pays d'Afrique, 8 de l'Occident, et elles visent à former les hommes dans la lutte contre le terrorisme. Zoumana Wondogo nous en dit plus.
La première participation du Burkina Faso à une opération de soutien à la paix remonte à l'année 1993. Cela fait donc 23 ans aujourd'hui que l'armée burkinabé est engagée dans les théâtres d'opérations en Afrique et même à Haïti. Seulement voilà, le pays qui semblait être épargné est devenu lui-même la cible des terroristes. On a toujours en mémoire l'attaque de l'hôtel Splendide et du bar-restaurant Le Cappuccino à Ouagadougou, l'attaque de la gendarmerie du Samourougan à l'ouest burkina. Face donc à cette situation, la hiérarchie militaire estime que le feu étant dans la maison, il faut mobiliser tous les efforts pour l'endiguer. Voilà pourquoi le chef d'état-major général des armées, le général Pengrenoma Zagré, a laissé entendre que le Burkina souhaite retirer ses hommes dans les opérations de maintien de la paix. Le Burkina a 3 bataillons au Darfour et au Mali et chaque bataillon compte 850 hommes. La question était de savoir, faut-il se retirer du Mali ou du Darfour ? La distance semble plaider pour le Mali voisin. Mais il faut le retenir. On ne se retire pas facilement d'une mission de paix onusienne. Il y a beaucoup de démarches à faire. Sinon, on s'expose à des sanctions. Nous a confié un haut gradé. Zoumana Wondogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les élections municipales et régionales au Niger vont se tenir le 8 janvier 2017. C'est ce qu'a annoncé hier la Commission nationale électorale indépendante dans un communiqué après 2 reports. La CENI justifie ce nouveau report par le fait que le 10 juillet, une frange importante de l'électorat rural sera occupée par les travaux des champs parce que cette date coïncide avec la saison des pluies. Les routes sont impraticables. Et c'est la période des fortes chaleurs au Niger. Les besoins en électricité sont donc aussi forts, mais ils ne sont pas satisfaits puisque chaque année, à cette période, la fourniture en énergie électrique manque, les coupures sont fréquentes et durent parfois toute la journée. Un véritable calvaire pour les populations, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Situation difficile pour les habitants de la capitale nigérienne qui, en plus de la canicule, le thermomètre affiche parfois 45 degrés à l'ombre, doivent faire avec les incessantes coupures de la fourniture en électricité, dure surtout pour ceux dont les activités sont conditionnées par l'énergie électrique.
Là, depuis ce matin, on n'a pas d'électricité. Nous sommes en train de croiser les bras.
On a les clients sont là en train de nous enculer. Comme quand on les a donné un faux rendez-vous, quand bien même, ils doivent même savoir que nos activités sont liées à l'électricité. Donc, pas d'électricité, pas de travail. On ne se retrouve même pas finalement. On ne sait même pas s'il faut changer d'activité pour ne pas être lié à l'électricité. Peut-être être au grand marché pour vendre un produit qui n'a pas besoin d'électricité ou pas.
On est découragé. Vous voyez comment vous avez trouvé les ouvriers. Tout le monde est assis comme s'il n'y a pas le boulot. Oh, il y a le boulot, c'est à cause de l'électricité qu'on est à la coupure.
À chaque fois, il y a des coupures, à chaque fois, il y a des coupures. Les gens en ont marre.
Et c'est vraiment une perte de l'économie donc, du pays. C'est une perte de l'économie des foyers.
Les coupures d'électricité bloquent les études dans les facultés à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey.
Ces coupures empêchent aux étudiants de réviser comme ils le souhaitent. Alors que nous sommes dans des périodes d'examens, dans un amphithéâtre, quand il n'y a pas un micro, les étudiants ne peuvent même pas entendre ce que l'enseignant dit. C'est ce à quoi nous assistons. Au niveau de nos laboratoires également pour les recherches.
Les tenants des officines pharmaceutiques sont aussi inquiets.
Notre souci, c'est nos centrales d'achat, c'est-à-dire là où le gros du stock de médicaments est conservé.
Pourtant, le directeur général de la société d'électricité avertit, cette année, ça va être un peu plus compliqué.
Cette année, il faut s'attendre à une situation un peu difficile, puisque au Nigeria, qui est notre principale source d'approvisionnement, compte tenu de la saison sèche, la production a chuté, passant de 6000 MW à peine 2000 MW. Et donc ils rationnent, ils ont diminué la quantité qu'ils donnent à chaque pays. Nous, des fois, on nous donne 20 MW sur 70. Des fois, ça monte jusqu'à 40 MW. Et donc, nous ajoutons nos machines qui peuvent produire 55 à 60 MW. Et nous avons averti la population que nous serons amenés à faire un peu de rationnement.
Pour faire face, certains se retournent vers les groupes électrogènes ou vers les panneaux solaires. Ils sont toutefois peu nombreux au vu du coût très élevé de ces deux alternatives. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Somalie, des forces spéciales américaines ont participé hier à un affrontement entre forces de l'Union africaine et les Shabab. Et selon le Pentagone, une frappe aérienne a été lancée sur les djihadistes somaliens. Mélie Segel.
Les soldats américains accompagnaient une offensive des troupes ougandaises de l'AMISOM contre un barrage routier des Shebab à l'ouest de Mogadiscio. La frappe a été menée par un drone, selon le porte-parole du Pentagone. 5 combattants Shebab ont été tués. Du côté américain et des troupes ougandaises, aucune perte humaine ou blessure n'a été rapportée. Une 50aine de soldats américains sont en Somalie pour soutenir la lutte contre les Shebab. Il s'agit pour l'essentiel de forces spéciales formées à la lutte antiterroriste qui conseillent les troupes somaliennes et l'AMISOM et mettent à leur disposition des moyens comme des hélicoptères. Les Shebab ont indiqué cette semaine avoir repoussé une attaque des forces spéciales américaines dans la ville de Toratoro, au sud de Mogadiscio. Début mars, le Pentagone a affirmé avoir tué près de 150 militants dans un bombardement au nord de Mogadiscio.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le gouvernement américain s'est dit prêt à assouplir l'embargo des Nations Unies sur les armes en Libye. Les États-Unis souhaitent ainsi aider le gouvernement d'union du pays à lutter contre le groupe État islamique, d'après des responsables et des diplomates américains dont les propos ont été rapportés par l'AFP. Le gouvernement d'union basé dans la capitale Tripoli est appuyé par la communauté internationale. En Syrie, au moins 19 civils et 8 miliciens pro-régime ont été tués lors de l'assaut jeudi contre un village alaouite dans le centre de la Syrie par le groupe djihadiste Front al-Nusra et ses alliés. Le Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et des groupes islamistes se sont emparés du village alaouite d'Al-Zara dans la province centrale de Hama. Le village a été visé par des dizaines de frappes de l'armée de l'air depuis l'assaut, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le chef militaire du Hezbollah, Mustafa Badreddin, a péri dans une attaque près de l'aéroport de Damas, selon le mouvement chiite libanais qui combat les rebelles en Syrie aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Badreddin était l'un des 5 membres du Hezbollah accusé du meurtre de Rafik Hariri, l'ex-premier ministre libanais tué dans un attentat à Beyrouth en 2005. Et pour terminer, ici aux États-Unis, ouverture d'un procès emblématique à Baltimore, celui d'un policier, plus d'un an après la mort de Freddie Gray, un jeune noir dans un fourgon de police. John Lydon.
Edward Nero, l'un des 6 policiers jugés séparément à Baltimore, est accusé d'avoir concouru à un homicide, mais lui parle d'accident. Freddie Gray s'est retrouvé le 12 avril 2015 avec une fracture des vertèbres cervicales pendant son transport dans un fourgon de police. Comparaissant libre, M. Nero et ses avocats ne sont autorisés à parler à la presse. Le policier est accusé de violence volontaire, mise en danger de la vie d'autrui et faute professionnelle. Un premier agent parmi les 6 a déjà été jugé en décembre, mais son procès s'était conclu sur une annulation surprise. Les jurés n'avaient pas réussi à s'accorder sur un verdict et il sera rejugé. Les policiers poursuivis, 3 blancs et 3 noirs, dont une femme, plaident la thèse de l'accident. Plus d'un an après la mort de Freddie Gray, personne n'a encore été condamné et le flou demeure sur ce qui s'est vraiment passé dans ce fourgon de la police.
Le prochain journal, c'est dans 50 minutes, ce sera avec Henri Francis. Jean-Roger Billon à ce micro, bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
petite note.